Plan Large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Des secrets et des fantômes ce samedi dans Plan Large avec Élise Girard et Paco Mthielman et aussi Sophie-Catherine Gallet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Des gens comme nous partagent un pays secret, entend-on dans le nouveau film d'Élise Girard, Sidonie au Japon, comme d'autres diraient Pauline à la plage. Il en est ainsi des affinités électives entre les personnages d'un film comme entre les spectateurs qui, devant le dit film, ont parfois ce sentiment d'appartenance clandestine qui pourrait être une définition de la cinéphilie. Le sens du secret est au cœur de la recherche de Rivette, critique de cinéma. Peut-on ainsi lire dans le nouveau livre de Paco Mthielman, Le secret de la société, un sens du secret qui est tout autant au cœur du cinéma de Jacques Rivette, une vaste œuvre encore bien secrète précisément, alors qu'on y trouve de quoi nous guider dans le noir des impuissances contemporaines. On tâchera de voir comment le film d'Élise Girard, méditant de son côté sur ce que l'art en général, la littérature et le cinéma en particulier peuvent nous apporter d'aide pour tout simplement vivre, il était tentant de les réunir aujourd'hui et ils sont, de fait, nos invités aujourd'hui dans Plan Large. En fin d'émission, Sophie-Catherine Gallet nous dévoilera, elle aussi, un secret, celui du squelette de Madame Morales, pépite noire de la comédie macabre mexicaine, signée de l'injustement oublié Rogelio A. González. Mais pour l'heure, dans un très chic hôtel nippon, il est temps de commencer notre interview.
Emma est 10代で突然天涯孤独になってしまう若い女性ですが、なぜこのような特殊な話を書こうと思ったんですか?
Pourquoi avez-vous choisi de raconter cette histoire en particulier?
J'ai perdu mes parents et mon frère dans un accident de voiture. Je suis restée seule dans une solitude totale. Comme tombée dans un trou. J'avais peur. Mais si le livre part de mon histoire, il n'est pas autobiographique. C'est une fiction.
ただ、その自分の物語から出発はしていますけれども、この本自体は自伝ではないんです。Diriez-vous que écrire guérit?
Ça ne guérit pas, mais peut-être que ça m'a aidé à survivre à ce moment-là.
J'ai lu que vous ne vouliez plus parler de vos livres. Alors pourquoi avez-vous accepté aujourd'hui de venir pour la réédition de cette ombre portée au Japon?
Eh bien, Monsieur Mizuguchi m'a écrit une lettre magnifique qui m'a convaincue. Et puis ce livre occupe une place particulière pour moi parce que c'est le premier que j'ai écrit.
Bonjour Élise Girard.
Bonjour.
Alors, on ne va pas se compliquer la vie puisque toutes les questions sont dans cet extrait. Pourquoi avez-vous choisi de raconter cette histoire en particulier, Élise Girard, celle d'une écrivaine ou peut-être plus, on ne sait pas, invitée au Japon, on l'a entendu, pour promouvoir la réédition de son premier roman qui avait eu un immense succès. Alors pourquoi avez-vous choisi de raconter cette histoire en particulier?
Ben, alors, en fait, j'ai eu envie de raconter cette histoire suite à mon premier voyage au Japon, à ma découverte de ce pays, que j'ai découvert donc en 2013.
Sur un malentendu, parce que le film que vous aviez réalisé s'appelait Belle Ville Tokyo, mais il n'y avait pas beaucoup de Tokyo dedans.
Il n'y avait pas de Tokyo.
Il y avait un Tokyo imaginaire.
Mais en tout cas, ce film m'a permis de connaître le Japon. Et voilà, il est sorti au Japon, on m'a invité, j'ai fait un peu ce que fait Sidonie dans le film, c'est-à-dire un voyage à la fois promotionnel, d'interview et touristique. J'ai découvert donc le Japon dans des conditions assez idéales. Et là-bas, en fait, je pense jamais aller aussi loin de chez moi. Et puis j'étais plongée dans une atmosphère, que je dépeins dans le film, très japonaise, très silencieuse, très étrange. Ça m'a beaucoup impressionnée. Et lorsque je suis rentrée en France, j'ai eu envie de d'écrire autour de ça. et aussi et donc de parler de ça, donc de déplacer quelqu'un ailleurs dans un pays étranger comme ça, très mystérieux comme le Japon, et de parler de finalement quand on est loin, parfois on se retrouve. Ce qui m'était arrivé moi au Japon d'une autre forme, mais voilà. Donc j'avais envie de parler de ça.
Quand vous arrivez au Japon, vous êtes quelqu'un qui a une certaine cinéphilie. Mmh. On connaît vos documentaires, notamment sur les fondateurs du cinéma action, sur Roger Diamantis, celui du cinéma Saint-André-des-Arts. Est-ce que vous confrontiez vos images du Japon intérieur, celles que vous aviez pu découvrir au cinéma, et ce que vous découvriez dans ce voyage-là?
Oui, exactement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je connaissais le Japon à travers les films d'Ozu, Mizoguchi, Naruse, voilà. J'arrive au Japon et je vois à la fois ce que je connaissais du Japon et en même temps quelque chose de nouveau. Et surtout, je comprends pourquoi il y a autant de fantômes dans le cinéma japonais. Ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, mais en fait, il y a autant de fantômes parce qu'ici, c'est silencieux. Ils ont vraiment, ils peuvent vivre, quoi. Ils peuvent se déplacer, exister. Ça m'a beaucoup marqué, ça. Et ensuite, j'ai eu l'idée de déplacer un fantôme aussi au Japon, mais un fantôme occidental.
Donc, alors ça, on va en parler de ce, oui. de ce fantôme-là. Mais il y a déjà une étrangeté qui redouble celle, sans doute, que vous aviez éprouvée à l'époque et qu'éprouve Sidonie. C'est que vous avez tourné ce film à un moment très particulier. C'est le printemps 2022. On est en plein confinement, plus ou moins, en tout cas le pays est coupé de l'extérieur, donc il n'y a pas de touristes. Et ce qui est très frappant quand on voit votre film, c'est le vide. Le vide qu'il y a partout. Alors, on n'est pas en Asie pour rien, on sait que le vide, en fait, c'est la figuration d'un plein, mais c'est quand même très frappant.
Oui, c'est frappant, oui. Et c'est, en fait, le pays était encore fermé. C'est un des derniers pays qui a rouvert ses frontières. Et nous, on est passé grâce à des visas de travail. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chance. On était sur des sites touristiques sublimes comme à Nara, avec les biches. Il n'y avait personne. Alors que normalement, sur ce site, il y a 3000 personnes minimum. Partout où on allait, c'était assez vide. C'était pas fait pour me déplaire, puisque moi, je voulais vraiment montrer deux personnages un peu seuls au monde, dans des décors très beaux. Voilà. Donc, j'étais ravie.
Alors, on est ravis de vous recevoir dans une émission qui s'appelle Plan Large, parce que de ce fait, cette solitude, vous la figurez avec votre directrice de la photographie, Céline Bozon. D'habitude, on vous voit travailler avec Renato Berta. Là, c'était Céline Bozon. Vous avez des cadres assez larges, précisément. Alors, on ne sait pas si c'est une distance respectueuse de vos personnages ou une façon de les inscrire dans ce vide.
Alors, c'était une façon de les inscrire dans ce vide. Et puis, c'était aussi, mon idée, c'était de les voir vraiment traverser des paysages. Je trouve ça très beau au cinéma quand des gens marchent. Et de filmer des gens en pied, c'est-à-dire entiers, pas coupés, quoi. Et qu'on les voit et qu'on ait surtout le temps que la durée, en fait, du plan nous permette de ressentir quelque chose. Donc d'être un peu comme eux, quoi.
Et de ressentir aussi la distance qu'il peut y avoir entre deux personnages.
Exactement.
Alors, votre histoire, c'est aussi, évidemment, donc celle de son tournage. Une façon, vous n'êtes pas la première, puisque Aung San Suu a beaucoup joué à ça, à prendre Isabelle Huppert et puis à la mettre dans une situation orientale, asiatique. Alors, d'habitude, chez lui, c'est en Corée. Là, vous la mettez au Japon. Mais il y a aussi ce côté que, presque expérience chimique. On va prendre Isabelle Huppert, on la met là et puis on va voir ce que ça donne.
Oui, il y avait un peu de ça, même si moi j'avais surtout envie de filmer Isabelle Huppert différemment, c'est-à-dire que de voir sa douceur, son humour, moi je l'apercevais différemment. Vraiment, j'avais cette idée de, je m'attachais plus à des films comme La Dentelière, tout ça. J'étais plus intéressée par ça que voilà, et je voulais vraiment, oui, la voir. Je voulais voir ses taches de rousseur, son visage, voir ce qui se passe, quoi. Mais tout ça dans beaucoup de douceur.
C'est amusant que vous parliez de La Dentelière, parce que j'ai eu précisément ce sentiment de retrouver, de voir deux Isabelle Huppert exister en même temps. Celle d'aujourd'hui, avec l'âge qu'elle a, et la jeune fille qui est toujours là, cachée derrière.
Et je pense que c'est parce que la couverture du livre, en fait, c'est une photo qui est extraite de la Dentelière. Le livre qu'elle a écrit, qui est réédité au Japon, c'est la couverture, c'est une photo d'elle dans La Dentelière. C'est pour ça aussi qu'on a cette Ça, c'est le côté...
on se fait notre propre raccord dans notre tête de spectateur-monteur.
Les cinéphiles raccordent.
Mais vous utilisez aussi beaucoup cette capacité assez inouïe qu'a Isabelle Huppert à figurer quelque chose d'invisible, à rentrer en elle-même comme si elle vivait dans un monde en parallèle dont on peut avoir la préscience mais sans jamais vraiment l'aborder.
Bah, disons qu'Isabelle, elle a cette... c'est assez fascinant de la filmer parce que c'est quelqu'un qui fait exister le hors-champ et qui pense. C'est-à-dire que quand on la met même de dos face à un paysage, on sent, quand on la regarde faire, que c'est plein. C'est-à-dire qu'elle pense quelque chose. Elle est... Il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est pas du vide, quoi. C'est... Voilà. Et c'est vrai qu'il fallait quelqu'un comme elle de très fort et de très... avec une très grande intériorité, une très grande expression, une très grande sensibilité pour pouvoir exprimer ce que ressentait Sidonie. Puisque c'est vraiment un film sur les sentiments, beaucoup, sur les émotions. Donc c'est vrai qu'il fallait qu'on sente qu'elle, toute seule, ça tenait, quoi. C'était possible, quoi.
On a même le sentiment que les paysages qu'on voit sont produits par sa propre intériorité, comme si elle projetait à l'extérieur et qu'elle créait, son environnement.
Le Japon, c'est un peu pour moi un pays.
C'est un film.
C'est un lapsus. C'est un pays assez mental. Parce que quand on est au Japon, on est forcément un peu en introspection, puisqu'on ne comprend rien, on est plongé dans un espèce de silence étrange, avec des gens qui font des choses qu'on reconnaît et en même temps on ne sait pas, on ne comprend pas. Tout semble fonctionner comme chez nous, on reconnaît tout, les feux, les routes, mais en même temps rien ne fonctionne comme... Donc ça déstabilise profondément. Et puis, on a beaucoup de moments où on est seul, parce que les traductions sont très très longues, et on est avec ses pensées. Et il fallait que ce personnage, quand il pense, ça marche, quoi. Enfin, c'est... voilà. Et puis, c'était mon rêve de faire tourner Isabelle, de toute façon.
Et puis, on n'est jamais complètement seul, puisque vous l'avez dit, il y a des fantômes.
Vous l'avez revu ?
Oui, ce matin. Il m'a dit qu'il avait toujours été là.
Bien sûr. Je vous l'ai dit, les fantômes vivent partout autour de nous. Content de vous voir.
Oui, moi aussi.
Précisons que le fantôme dont il est question, c'est un fantôme importé d'une certaine façon, puisque c'est celui du mari de Sidonie, joué qui plus est par l'allemand Auguste Diehl. Alors vous aviez le choix entre faire ressentir sa présence par des cadres, par des indices, c'est le cas au début du film, ou de le montrer, et vous choisissez de le montrer frontalement ce fantôme. Vous avez hésité longtemps sur...
Non.
Le montrer ou pas ?
Ah non, pas du tout. J'ai jamais hésité parce que moi, ce que je voulais, c'était un fantôme marrant, très très vivant. Et je voulais que ce film donc soit vraiment... ce que je voulais, c'est filmer la fin d'un deuil et la renaissance, l'amour qui revient. Et je voulais un film pas plombé. C'est-à-dire, je voulais quelque chose d'assez burlesque, enlevé, ce que Isabelle fait parfaitement bien. Et donc, ce fantôme, il est tellement sympa, tellement drôle, tellement marrant, tellement vivant, que c'est compliqué de s'en débarrasser. Voilà.
Oui, on préfère les fantômes qui disparaissent plutôt que ceux qui sont trop là.
Exactement. Quoi. Et donc, mon idée marrante, c'était qu'il avait toujours été là, depuis sa mort, mais que comme elle était en France, elle ne le voyait pas. Et puis qu'arrive au Japon, au pays des fantômes, il apparaît.
Alors effectivement, c'est un fantôme rigolo, c'est un fantôme qui fait pas peur. Hein. On n'est pas dans le Kyoshi Kurosawa de Cairo, on est plutôt dans celui de vers l'autre rive.
Oui.
Alors on pense à Madame Muir, mais on pense aussi à tout un courant qu'il y a eu dans le cinéma, notamment anglo-saxon, à la fin des années 80, début des années 90. Il y avait eu Ghost, Always. Mais moi j'ai beaucoup pensé à un film d'Anthony Minghella, son premier film qui s'appelait Truly Madly Deeply, où on avait de même le fantôme d'un mari qui comprenait qu'il devait s'effacer. Vous avez pensé à tous ces films ?
Ah non, moi j'ai pensé juste à Madame Muir. J'ai pas vu le film dont vous parlez.
Ah, je vous recommande, c'est un très beau film.
Je le verrai du coup. Mais non, moi j'ai pensé vraiment toujours à Madame Muir, à ce ton-là, léger. Voilà, c'était vraiment pour moi importer un fantôme occidental, ce qui me faisait beaucoup, beaucoup rire intérieurement de faire ça. Et ce fantôme, je l'ai filmé après. C'est-à-dire que j'ai filmé Isabelle seule au Japon, qui jouait seule. On laissait la place dans le cadre pour poser le fantôme plus tard. Et ensuite, j'ai filmé le fantôme seul dans un studio en Allemagne, sur fond vert. Et on l'a posé dans le film en montage, en post-production.
Oui, ce qui lui donne une qualité de présence-absence qui est tout à fait étonnante, voilà. Parce que vous affichez en fait le trucage. Vous ne mettez pas le fond vert, mais enfin, il n'a pas la même définition, il n'a pas, même pas le même éclairage.
Non, oui.
Donc vous voulez vraiment montrer ça, enfin vous jouez beaucoup avec l'artifice.
Oui, bah avec Céline Bozon, on a beaucoup réfléchi à ça et en fait, on a trouvé cette forme. C'est pas facile d'atteindre la simplicité au cinéma, en fait. Hein. Plus on veut simple, plus c'est difficile, finalement. Et on a décidé qu'il allait être suréclairé pour pas avoir d'ombre, et ce qui allait créer, finalement, l'étrangeté de ce fantôme dans les plans, c'est qu'il soit très lumineux, quoi. Et donc, on voit des plans où il est donc assis à côté de Sidonie, et elle a de l'ombre, et pas lui. Donc, ça donne quelque chose de super. Et puis moi, ça m'amusait aussi de pouvoir jouer avec sa transparence, sa consistance, ce que je n'aurais pas pu faire s'il avait été filmé réellement, quoi.
On peut s'asseoir dessus, enfin dedans.
Voilà, ça, on peut traverser. Voilà, c'est et c'est pas un fantôme japonais, puisque lui il mange et pas les fantômes japonais. Enfin bon, voilà, c'est.
Oui, je vois, vous avez étudié la question. Alors, c'est pas le seul moment où vous affichez les artifices du cinéma. Il y a beaucoup de scènes de taxi dans votre film. C'est vraiment le cœur de la progression amoureuse entre Sidonie et Kenzo, hein, qui s'appelle Mizoguchi. On l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait. Il prétend que ça n'a rien à voir avec Mizoguchi.
Oui, c'est un clin d'œil.
On peut quand même en douter. Et alors, ils ont l'air de flotter devant des images de décors qui deviennent de plus en plus folles. C'est comme si la technique. La technique très Hitchcockienne, hein, de la transparence derrière les vitres, la rétroprojection devenait folle, prenait son autonomie.
Oui, je voulais qu'il soit comme dans une bulle en dehors du monde et puis qu'il traverse un espèce de Japon extrêmement fantasmé, extrêmement étrange.
Il y a des cerisiers en fleurs qui traversent dans tous les sens.
Quand l'amour arrive, les cerisiers arrivent, il y a des cuts, des jump cuts, il y a beaucoup d'effets, quoi. Il y a des zooms, il y a des moments où ils voient la même chose chacun de leur côté de fenêtre, c'est tout à fait impossible. Bon, voilà, mais pour moi, le cinéma, ça doit faire rêver et, enfin, c'est ce que je voulais, moi, quelque chose de très, enfin, pas naturaliste, quoi.
Et c'est une façon peut-être aussi de détourner l'attention du spectateur de ce qui se passe de plus important et qui est là montré avec des effets très simples et très beaux. Il y a tout un érotisme de la main, par exemple, chez vous.
Oui, bah oui, je pense que les mains, c'est important dans l'amour. Voilà. Donc oui, j'ai montré ça de façon très pudique, hein, puisque je suis quelqu'un d'assez pudique, mais oui, je voulais montrer ça différemment. Isabelle me disait que c'était vraiment très très, c'était vraiment de l'érotisme féminin. Mais c'est vrai que voilà, on a fait ça, on a filmé ces taxis en studio aussi, sur fond vert. Donc j'ai fait beaucoup d'effets spéciaux dans ce film. Ça paraît pas comme ça, mais voilà.
Marvel n'a qu'à bien se tenir. Et alors il y a aussi, bon, il y a d'autres fantômes qui hantent ce film. Moi j'en ai repéré au moins trois. Le premier c'est une femme fantôme, c'est Michiko Yoshitake, oui. Grande productrice.
Ben oui, en fait avec Michiko on avait commencé à faire ce film ensemble. Puis Michiko est décédée, voilà, elle est morte d'un cancer. Et c'est donc Sébastien Guenauer qui a repris le flambeau. Mais il y a beaucoup de fantômes, oui, dans ce film.
Il y a une autre fantôme, Sophie Filière.
Il y a Sophie Filière, bien sûr.
Qui a porté l'élément très burlesque.
Voilà, dans ce film. Avec qui j'ai fini d'écrire ce film, qui est décédé l'année dernière, en août, enfin le 31 juillet. Et puis voilà, il y en a d'autres. Hein.
Troisième fantôme, Ryushiki Sakamoto.
Ben oui, qui m'a autorisé à utiliser ses musiques et puis qui est mort un mois après. C'est assez étrange, hein. C'est-à-dire que le film, voilà, c'est un film que j'ai mis quelques années à faire, qui a été très compliqué à faire. Mais ce qui est étrange, c'est voilà, tout ce qui s'est passé, quoi. Tous les gens qui ont fait beaucoup, beaucoup pour le film et puis qui sont partis, quoi. C'est assez étonnant, hein. C'est étrange. Mais ils sont toujours là.
Ils sont toujours là, c'est ce que j'allais dire. Vous vous sentez accompagné toujours par eux.
Bah moi, de toute façon, je crois aux fantômes, donc j'ai pas fait ce film pour rien.
Amore, c'est le nom de ce morceau de Ryuichi Sakamoto. Merci Élise Girard, Sidonie au Japon. C'est sorti en salle ce mercredi. Vous écoutez Plan Large sur France Culture et vous restez avec nous. Élise Girard, je suis certain que la cinéphile que vous êtes n'est pas étrangère au cinéma de Jacques Rivette. La Malvie que jouait Lolita Chama dans votre précédent film, Drôle d'oiseau, en tout cas tout d'une héroïne rivettienne. Le cinéma de Rivette, c'est un cinéma qui a une bonne nouvelle à nous donner.
Oui, je vous importe un message de bonheur.
De bonheur parce que je vais très bien. Je vais très bien depuis que j'ai compris que votre histoire des 13 et de ces hommes qui voulaient tenir en leurs mains toute une société, que cette histoire des 13 était d'un pur fantasme d'adolescent. Et je dirais même un fantasme idéologiquement faux. N'empêche que ce fantasme m'a emmené très très loin dans un cauchemar épouvantable.
dans un cauchemar épouvantable où j'ai frôlé la folie, où j'ai frôlé la mort. J'y ai rencontré le sphinx et je n'y ai pas trouvé l'amour parce que je posais à ce sphinx une question qui était une question mal posée. Comme cette question des 13 est mal posée et leur empêche justement de trouver la réalité. Pour ma part, j'en suis sorti et je vais bien. Je vais très 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 bien. Et je vous laisse à vos conversations mondaines.
Et c'est avec Pacôme Thielman que nous poursuivons nos conversations mondaines. Bonjour Pacôme.
Bonjour Antoine.
Le message de bonheur, c'est Jean-Pierre Léo Collin dans Out 1 de Jacques ouais. Rivette, qui ayant retrouvé la parole, nous le donne dans le 8e et dernier épisode de son film Fleuve. Et on sait combien Jacques Rivette vantait les films qui avaient la forme de fleuve. C'était en 1971. Les auditeurs et auditrices qui écoutent Mauvais Genre vous connaissent bien, Pacôme. Celles et ceux qui découvrent ou redécouvrent Jacques Rivette dans les sons édition en DVD et Blu-ray des éditions Potemkin vous connaissent tout autant puisque vous les régalez d'exégèses tout aussi fleuves
interminables
dans les bonnies, voire celles de L'amour fou et Va savoir qui viennent de sortir. Jacques Rivette, c'est, crois-je savoir, votre cinéaste français préféré. Depuis quand et pourquoi? Alors,
depuis que j'ai 16-17 ans, que j'ai découvert, j'avais demandé à ma mère, j'étais obsédé par David Lynch, je lui avais demandé quels étaient les films les plus étranges qu'elle avait vus. Et elle m'avait parlé de L'heure du loup de Bergman, sans doute de Rosemary's Baby aussi, mais de Céline et Julie vont en bateau. Elle m'avait dit, si t'as l'occasion de le voir, alors là, vraiment, c'est un film incroyable. Et, pas très longtemps après, il est passé sur une chaîne du câble, Ciné Cinéma. Je crois. Et je l'ai enregistré. Après, je l'ai revu, mais 40 ou 60 ou 80 fois, je sais plus. Au bout d'un moment, de toute façon, je le faisais circuler en boucle. Et ça s'est redoublé au moment où j'ai pu voir Out 1, qui est sorti quelques années plus tard, directement en VHS. C'est le milieu des années 90, il est sorti en VHS, qu'on achetait par correspondance. Donc, quatre cassettes VHS.
Déjà, il y avait un côté société secrète, déjà. Bah, complot.
Si c'est un complot, alors...
Le complot du bien. Le complot du bien. En tout cas, l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est page 176 de votre nouveau livre, Le secret de la société. Colin, Jean-Pierre Léo, depuis le début du film, donc Out 1, enquête sur une mystérieuse société secrète, tout droit sorti des romans de Balzac, les 13. Il en dénonce finalement, on vient d'entendre, la supercherie. Oui. Et de fait, si on associe souvent Jacques Rivette au complot, le trajet de son cinéma, c'est précisément peut-être moins de dénoncer l'inexistence d'un complot, mais que d'en dévoiler l'aspect fictionnel. Oui, celui d'un grand jeu.
Tout dépend de quel complot on parle, quoi. Mais le complot en général, le complot tel qu'il est montré typiquement dans Paris nous appartient, dans Out et tout ça, c'est un jeu. C'est-à-dire que c'est des gens qui se prennent très au sérieux, quoi. Mais le problème, ce serait pas très grave s'il y avait pas des victimes. Et dans Out, c'est vraiment ça, c'est-à-dire de montrer deux personnes enquêtées sur une société secrète qui se voudrait être l'héritière des 13 de Balzac, qui eux-mêmes n'étaient pas très doués. Hein.
Vous dites,
j'en parle pas mal.
Ils sont un peu des nuls.
Oui, c'est un peu des nuls, les 13. c'est très tapageur, mais en fait, dans les détails, ça le fait pas. Mais on a deux personnes qui enquêtent sur cette société secrète. L'un qui est joué par Jean-Pierre Léo, qui est Colin, et l'autre qui est joué par Juliette Berthaud, qui est Frédéric. Et eux, ils en sont victimes de cette espèce de blague que se racontent des gens qui pensent qu'ils sont des adultes et qui sont restés des adolescents et qui sont à peu près tous les humains. Dans une interview, Rivette, il dit, bon, tous les gens qui font de la politique, de toute façon, c'est ça. C'est des gens qui font semblant d'être des adultes, quoi.
Mais c'est toute la question du sacrifice de l'innocent ou de l'innocente, plutôt, en général. Oui. C'est déjà le cœur, effectivement, de Céline et Julie vont en bateau.
Enfin, absolument.
Comment arrêter cette fiction-là?
Oui, absolument. Et alors, autant dans Out, on est dans la description de ce que peut être cette fiction qui est très drôle, hein, parce que c'est un film très drôle, Out, mais qui a quand même des victimes. Et ça se finit pas bien pour Frédéric, quoi, et pas terrible pour Colin non plus. Mais dans Céline et Julie ont en bateau, ces deux filles, Céline et Julie, qui sont jouées par Juliette Berthaud et par Dominique Labourier, qui décident d'interrompre cette histoire sordide qui se répète tous les jours et dans laquelle une petite fille meurt, quoi. C'est la phrase célèbre, cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça, pas comme les autres fois.
Oui, ça, on va en reparler parce qu'on l'a réentendu récemment, cette phrase. Je vous cite encore page 87, pas comme Thielman, de votre livre. Cette énigme à laquelle, entre autres, voudrait se consacrer ce livre, le fait que le cinéma de Jacques Rivette soit aujourd'hui encore beaucoup trop méconnu, alors même qu'il contient peut-être les armes pour renverser intégralement ce qui fait le drame de notre condition politique, l'impuissance ou le sentiment de celle-ci. Alors le voilà, le réarmement auquel appelle notre président.
Alors c'est des Macron, armes d'un autre genre. Hein.
Les armes, c'est chez Rivette qu'on les...
Oui, oui,
les
oui. Alors c'est tout autre genre d'armes. C'est pour celle que Juliette Berthaud appelle dans son livre La fille au talon d'argile, les guerrières du bonheur et de la paix. Donc c'est des armes de paix, quoi. C'est des armes magiques. C'est avec des armes magiques qu'on renverse les choses. Donc oui, moi j'ai cherché dans Rivette. Je veux dire, donc je regarde ses films depuis plus d'une trentaine d'années et je les regarde en boucle. Mais en fait, ils sont de plus en plus pertinents. Et ça, c'est un truc très curieux. C'est-à-dire que plus le temps passe et plus les films de Rivette me semblent parler d'aujourd'hui. On peut dire ça peut-être des très grandes œuvres d'art, qu'elles sont toujours pertinentes et qu'elles le deviennent toujours un peu plus. Mais pour Rivette, c'en est extrêmement troublant. Parce que si on pense à deux grands sujets de société d'aujourd'hui, même voire trois grands sujets de société d'aujourd'hui, est-ce que je dis trois fois et trois fois plus vrai. Il y a le premier, la question des théories du complot ou du complotisme. Bon, chez Rivette, on a une manière de mordre dedans qui est tout à fait singulière. Une deuxième, les questions liées au terrorisme. Bon, dans Le Pont du Nord, on a une façon extraordinaire de l'aborder. Puis le troisième, évidemment, toutes les questions liées à l'émancipation féminine. Et le cinéma de Rivette, c'est le cinéma des actrices qui s'émancipent d'un récit dans lequel elles sont vouées à perdre et qui montre comment elles peuvent s'en sortir et s'en sortir justement en étant amies, en étant copines, en étant sœurs, en étant magiciennes. Et tout ça, c'est des choses qui ne cessent d'être présentes dans le cinéma de Rivette. Et c'est pour ça d'autant plus surprenant qu'il ne soit pas plus au centre des conversations. Parce que je dirais qu'il y a une manière d'aborder tout ça qui est incroyablement libérateur. Et qui passe par une vision politique qui n'est pas orientée vers les buts ou vers les fins. C'est-à-dire que ça fait sauter tout ce qui est cette absurdité qui est la stratégie pour obtenir quelque chose, mais qui est sur la façon dont on le fait. C'est-à-dire, chez Rivette, ça se donne dans son cinéma, pour moi, très... Bon, c'est mon hypothèse, hein, mais très simplement, c'est des gens qui répètent des pièces de théâtre, mais on va pas avoir de représentation de cette pièce. Ce qui est important, c'est la répétition. C'est de voir l'acte créatif. Puis après, quand on regarde La Belle Noiseuse, par exemple, c'est voir quelqu'un en train de travailler sur une toile, mais ne pas voir la toile. C'est pas la toile qui est importante, c'est le travail sur la toile. C'est toujours en fait ce qu'on fait qui est important, et parce que toutes les finalités qu'on pourra y mettre, elles sont très hypothétiques. 5 ans, elles se renversent. 10 ans, elles se renversent. On est tout le temps en train de penser aujourd'hui. Voilà, encore quatrième raison pour laquelle Rivette est pertinent. Les gens pensent déjà aux prochaines élections. Mais bon, quoi, les prochaines élections, une fois qu'elles seront passées, ils penseront aux suivantes, plutôt que de penser à aujourd'hui, à ce qu'on fait aujourd'hui. Les échéances, c'est ça qui est toujours absurde, alors que c'est le travail qu'on fait qui fait toute la beauté de la vie et qui fait les relations, et c'est ça les relations secrètes entre les êtres humains. Rivette, dans une interview à l'époque d'Out, justement, il parlait de ce qu'il est, non, à l'époque de L'Amour fou, il parlait de ce qu'il avait un peu manqué dans Paris nous appartient, hein, je cite mal, vous vous référez, il disait qu'il avait manqué dans les répétitions de Paris nous appartient montrer les relations un peu secrètes qu'il y a dans le travail des comédiens, et que c'est ça qu'il cherchait. Ces relations un peu secrètes, on les a vraiment dans son cinéma, parce que soudain on voit des personnes dans leur état créatif. Et c'est dans l'état créatif qu'il y a le bonheur, quoi. Le bonheur de vivre, d'agir, d'être ensemble.
On peut parler d'autre chose ou rien, c'est aussi bien.
On doit parler d'autre chose.
Il faut parler d'autre chose. On sait parler d'autre chose. Il y a la...
Il y a les soirs d'orage,
de si beaux paysages,
l'étoile du Caravage,
avec ses mecs sauvages. J'ai pas la
je trouve ça
Caravage.
La rime est passante, critique simplement,
doublement.
Je m'en bats les
yeux, le ciel
sur le toit que tu vois. Des fois je vois pas
le soleil,
mais me veille
en été.
C'est la lumière.
Marion et Louise, alias Nathalie Richard et Marianne Denicourt. C'est dans Au bas fragile, ouais. Un de vos films de rivette préférés, ouais. Pas comme tellement. Un film qui passe haut la main le test de Bechdel, avec deux femmes qui parlent d'autre chose. D'autre chose que d'un homme. Ça rangeait aussi dans la catégorie des films Brigitte. Je sais pas si vous connaissez ce concept forgé par Jean-Claude Biette à partir du film de Luc Moulet, Brigitte et Brigitte.
D'accord.
Soit un film précisément où le point de vue majoritaire n'est plus celui d'un homme, mais celui d'une femme. Et la filmographie de Jacques Rivette en regorge depuis au moins Céline et Julie vont en bateau. On en avait parlé ici avec Hélène Frappa en 2018 quand le film était sorti en DVD toujours chez Potemkin. Et justement, je voudrais revenir un peu là-dessus parce qu'à l'heure où on fait le procès de la nouvelle vague des cahiers du cinéma et de la politique des auteurs, il est quand même utile de rappeler combien Jacques Rivette, fer de lance des trois, est sans doute le premier grand cinéaste de la sororité, comme vous le disiez. En tout cas, c'est aussi justement ce qu'a dit dans son discours au César Judith Godrèche, qui a manifestement lu et bien lu son Hélène Frappa quand elle faisait référence à Céline et Julie. Hein. Je redonne la fin de son discours. Céline, il était une fois. Julie, il était deux fois. Il était trois fois. Céline, il était que cette fois. Ça ne se passera pas comme ça. Pas comme les autres fois.
Oui. C'est assez extraordinaire hein, quand on voit aujourd'hui Céline et Julie vont en bateau. Et ça tient aussi beaucoup à la personnalité et la créativité de Juliette Berthaud. Juliette Berthaud qui, quelques années plus tard, sera interviewée justement sur ce sujet-là par Delphine Seyrig. Bon, quoi, c'est un film que ils imaginent ensemble à ce moment-là. D'abord Jacques Rivette et Juliette Berthaud, puis ensuite Jacques Rivette qui, à la manière de Renoir, fait l'endormi et laisse Juliette Berthaud et Dominique Labourie inventer Céline et Julie vont en bateau. C'est pour ça qu'à Delphine Seyrig, elle parlera justement de la place de Rivette qui, à ce moment-là, elle dit, il était comme une fille finalement.
Oui, parce que Rivette, c'est le cinéaste anti-démiurge. Hein. Enfin,
ouais,
vous qui aimez parler des 100 rois,
c'est ma terminologie.
Des 100 rois, mais c'est vrai que c'est une question qu'on aborde beaucoup, la surpuissance du cinéaste.
Oui.
Lui, c'est précisément celui qui veut s'effacer, s'endormir, laisser le film presque se créer pendant qu'il dort.
Oui, absolument. Et c'est ça qui fait opérer cette révolution complète que fait son cinéma. C'est-à-dire que à partir du moment, il tient ça de Renoir. Enfin, disons qu'il a fait d'abord ce très long documentaire en plusieurs épisodes pour Cinéaste Notre Temps de la Barthe avec Renoir le patron. Et il se rend compte de quelque chose. Ça, c'est d'ailleurs la Barthe qui en parle dans le livre d'Hélène Frappa. Où il dit, au bout d'un moment, Rivette se rend compte que son personnage, c'est pas Renoir, c'est pas lui, c'est le temps. Et parce qu'il a plus envie de couper. Et donc à la fois il chope cette espèce de manière de faire de Renoir, qui est de laisser le film le plus ouvert le plus longtemps possible, de moins marquer ses intentions, de laisser les acteurs trouver leur rôle, trouver leur personnage, les inventer. Et donc il fait ça sur L'amour fou avec Bulogier, avec Jean-Pierre Calfon. Il fait ça après dans tout son cinéma plus ou moins. Hein. C'est-à-dire qu'à variable degré de liberté, à variable degré d'improvisation, dans Out c'est poussé à l'extrême, mais c'est presque un jeu c'est presque un jeu dangereux. Hein. On voit que les acteurs, à un moment, Léo ou Barnett Laffont, ils sont limite en train de craquer devant nous, quoi. Et puis ensuite, avec l'aide de Pascal Bonitzer et de Christine Laurent, il invente encore une autre manière de faire.
C'est co-scénariste.
C'est-à-dire que c'est des co-scénaristes qui sont sur le tournage. Donc en fait, ils écrivent les dialogues à mesure que le film est en train de se tourner, avec toujours les acteurs ou plutôt surtout les actrices, parce que c'est quand même d'abord un cinéma d'actrices qui inventent leurs personnages, leurs intentions. Et en fait, cette manière de libérer les acteurs ou les actrices libère aussi le spectateur. Parce que du coup, le spectateur
rentre dans le jeu.
Voilà, exactement. Et change de situation. On n'est plus du tout à la même place. On est à une place qui est une place extraordinaire où on est en train d'observer des relations qui sont peut-être même secrètes aux personnages eux-mêmes, qui sont en train de se jouer presque de par surcroît. Et chaque spectateur, à ce moment-là, se fait son film, comme on dit.
Rivette, c'est quelqu'un qui va même jusqu'à penser l'après-Rivette, pendant même qu'il fait du Rivette. Enfin, vous l'écrivez
au
bas fragile, vous dites c'est le film de l'après-Rivette, ouais, c'est-à-dire c'est le film d'un cinéaste de 60 ans qui dit je ne vais pas vous imposer, moi, mes histoires, maintenant, il faut peut-être vous passer de moi. Quoi.
Oui, c'est l'impression que j'ai eue aussi, j'ai l'impression que j'ai eue en voyant Au bas fragile, qui arrive assez tard dans sa cinémographie, ce n'est pas son dernier film, mais on arrive à un point de jonction, il n'y en a plus énormément derrière, mais celui-là, particulièrement met en scène quelque chose qui a un rapport de génération. Ce rapport de génération, on le voit avec ses actrices, Marianne Denicourt, Nathalie Richard, Laurence Scott, et de l'autre côté, les acteurs qu'il choisit, qui sont des acteurs, comment dire, marqués par la nouvelle vague, Laszlo Szabo et Anna Karina. Mais Rivette joue lui aussi dans ce film. Il joue un personnage qui s'appelle Paul au début. Et si le personnage de Laurence Scott, qui est en fait en recherche sa mère, et à un moment se demande si elle l'a trouvé ou pas par rapport à Anna Karina, et puis part en courant. Elle part vraiment en courant. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, il y a quelque chose de particulier. Elle est déjà partie en courant une première fois, et c'est face à Rivette lui-même. Donc il y avait quelque chose quand même, je trouvais, dans ce cinéma-là, qui était très généreux par rapport à la plupart des films dans des cinématographies de grands réalisateurs, qui à un moment finissent par nous dire, vous avez vu, j'ai tout compris, bon maintenant je vais vous le redire que j'ai tout compris, je vais vous refaire le discours. Là, il y a un côté, maintenant fuyez et faites votre truc, quoi. Mais bon, quoi, ça c'est... chaque spectateur se fait son film. Moi, c'est la façon dont je me le fais, ce film.
Mais précisément, vous pensez, contrairement à beaucoup de Rivettiens, vous pensez l'œuvre tardive, qui souvent est un peu évacuée rapidement, et notamment La Belle Noiseuse, dont avez parlé. Beaucoup ont vu une trahison de la part de Rivette, peut-être parce que c'est un de ses plus grands succès commerciaux aussi, ou avec les œillères d'aujourd'hui, comme on le voit ressurgir, que ce film serait le prétexte pour filmer les fesses d'Emmanuel Béart dans un délit flagrant de male gaze. Or, vous l'écrivez... Vous le montrez dans votre livre, c'est encore une fois une histoire d'émancipation, douloureuse certes, mais d'une transformation alchimique, dites-vous.
Oui, parce que en fait, ce qu'on oublie très vite, parce que la voix off est au tout début et à la toute fin du film. C'est que le film est raconté par le personnage féminin. C'est Marianne, jouée par Emmanuel Béart, qui raconte cette histoire. Elle le raconte. On apprend assez vite, du reste, mais on l'oublie, pareil, on l'oublie parce qu'elle passe à autre chose, que c'est un écrivain. C'est un écrivain qui a écrit des livres pour enfants, dont un qui a un titre très bizarre. Celui qu'elle cite, c'est « Secret défense aux yeux d'or ». Alors, un livre pour enfants qui s'appelle « Secret défense aux yeux d'or »,
si vous voulez.
Oui, on est déjà dans quelque chose d'anormal. Et l'histoire, en fait, elle a un espèce de d'arrière-plan alchimique parce qu'on a un personnage d'alchimiste dedans qui est Claes, qui est le type qui amène Marianne au peintre Fraunhofer, parce que c'est présenté, mais tout ça, c'est dans la voix off, quoi. C'est un chimiste qui un jour a trouvé une formule qui l'a rendu immensément riche. Il y a des fois des petites formules comme ça qui transforment tout. Bon, tout est joué comme ça. Donc on a un film derrière le film, quoi, si on veut. Moi, en tout cas, à revoir et revoir La Belle Noiseuse, ce que j'ai vu avant tout, c'est un film raconté par Marianne, qui raconte comment, un peu comme le narrateur de La Recherche Temps Perdu, comment elle est devenue l'écrivain qu'elle est devenue. Et alors, elle repense à des événements, et c'est un film qui est, en fait, qui nous montre pas les événements eux-mêmes, mais comment ils ont été vus par le personnage principal, qui est en train de nous le raconter, et qui est en train de nous le montrer. Hypothèse.
Hypothèse à lire dans votre livre. On voudrait encore parler toujours et encore de Rivette, comme il le disait dans ses entretiens avec Hélène Frappa, Jacques Rivette, secret compris, doit pouvoir être continué. C'est une formule que j'aimerais mettre à la fin de tous les films. No end at all, no sad goodbyes, no fears, no tears, no love that dies. It sends a fina, let it always be, sends a fina, never ending. The sunlit days, the moonlit nights, the sea, the sand, the starry heights are yours and mine forevermore. c'est à la fin de Va savoir de Jacques Rivette qu'on entend ce Sainte-Saphine par Peggy Lee. Va savoir qui, comme L'Amour fou, vient de sortir en DVD et Blu-ray chez Potemkin avec les indispensables exégèses de Pacôme Thielman, entre autres Bonnie. Merci Pacôme. Le secret de la société, c'est édité chez PUF et on va beaucoup mieux en le lisant. Les auditeurs parisiens pourront vous rencontrer le mercredi 17 avril à 18h30 à la boutique Potemkin près du canal Saint-Martin. Vous serez avec Nathalie Richard et Jean-Pierre Calfon. Oui. Et puis les Bordelais, pour eux, ça sera le jeudi 16 mai à la librairie Mola. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, on ouvre comme chaque samedi le journal du cinéma avec pour commencer quelques autres sorties de cette semaine où il est beaucoup question d'espace et donc de cinéma.
Je dois avoir 18 ans, je dors avec mon frère. Déjà il ronfle et en plus de ça il pue des pieds.
Maman ?
Tu veux pas partir ?
Non. C'est la maison de mamie, moi je veux la garder.
हट जाओ मैं
पागल हो गया गुरु मुंह चल जाना
मैं मजाक नहीं कर रहा हूं इस बार
गुरु गुरु बोतल तो देना
मैं बता रहा हूं मैं पी लूंगा
छोड़ वाओ यू हैड अ फुल डे
इज इट बैड बैड इफ दे फाइंड द गुड्स
imagina Pierre había escondido la copia original en un sótano en París.
Ese documento tiene que permanecer a la eternidad.
Voilà les avions qui décollent ici. Toute notre planète vient visiter Paris. Donc, premier contact avec l'étranger, c'est le taxi parisien.
Ça, ce n'est pas le boulot des Français. Hein. C'est nous, les immigrés, c'est notre boulot. Si vous nous foutez dehors, alors là, hein, vous allez prendre des trains.
Faudra éteindre.
Sur vos écrans depuis ce mercredi, une sœur et un frère à l'écran comme dans la vie, embarrassés d'une maison délabrée et d'une poisse sociale, c'est Il pleut dans la maison, très prometteur, premier film de la Belge Paloma Sermandaï, qui gagnera sans doute par la suite à dépasser la chronique balisée du teen movie estival pour oser le romanesque, on la suivra en tout cas de très près. Une maison encore dans une ville indienne connue internationalement pour abriter le Taj Mahal, mais aussi le plus grand hôpital psychiatrique du pays, maison où cohabite avec violence et férocité une famille déglingué, c'est l'hallucinant et halluciné Agra, une famille indienne de cannibales, très très crue, balade de la frustration sexuelle en pays surpeuplé et sans doute le film le plus dingo de la semaine. Il se voudrait tout aussi dingo, il est en fait très balisé sous ses dehors transgressifs, c'est Drive Away Dolls, première excursion en solo d'Ethan Coen, sans son frère Joel, mais avec sa femme et monteuse Trisha Cook, en remake queer et dans l'air du temps de Thelma et Louise. Bonne nouvelle, les Coen devraient se remettre ensemble sous peu. La réapparition 50 ans après son tournage d'un film fantôme tourné par Pierre-Dominique Guesso en immersion chez un peuple autochtone du Panama, les Kunas. Un film naufragé pour raisons financières et rendu à ceux qui avaient été filmés. C'est l'étonnant Dieu est une femme d'Andrés Perrault ou comment le cinéma dépasse toujours les intentions de ceux qui le font. Le quotidien des chauffeurs de taxi en attente de clients à l'aéroport de Roissy, filmé par eux-mêmes au téléphone portable, c'est le bel exercice de déprise et d'étude d'espace proposé par Vadim Dumesh dans son documentaire La Base. Et puis enfin, premier film encore, un état de la société turque au milieu des années 90, société partagée entre la laïcité kémaliste le jour et la montée de l'islamisme la nuit. C'est le très sensuel et romanesque Yurt, premier film manifestement très inspiré de son adolescence de Nehir Tuna, un film soutenu par France Culture. Quelques manifestations encore à vous signaler, amateurs de cinéma hongkongais, réjouissez-vous, c'est un festin que vous propose jusqu'au 7 juillet le Forum des Images à Paris, un programme inédit de plus de 100 séances, manière aussi de revenir à la découverte de cette cinématographie, alors encore un territoire inconnu au début des années 80, grâce notamment côté Cahiers du cinéma à Olivier Assayas et Charles Tesson, et côté Starfix à Christophe Gans et sa bande, avec aussi Hong Kong 1984, une belle exposition des photographies prises à l'époque par Françoise Huguier. Pour les amateurs d'espace splinétique, d'incommunicabilité et d'effacement du réel, le cinéma de Michelangelo Antonioni est à l'honneur à la Cinémathèque française qui lui consacre une rétrospective intégrale du 10 au 26 avril. Et en attendant, vous pourrez ce week-end, si vous êtes parisien toujours, découvrir en sa présence quatre films récents et inédits en salle du très prolifique Richard Linklater, qui est actuellement en tournage à Paris, de son film sur le tournage d'À bout de souffle. Les films inédits, ce sont Bernadette a disparu, Hitman, Apollo 10,5 et Hometown Prison. Prison, c'est tout ce week-end au Centre Pompidou, en espérant qu'il reste encore des places. Ceci annoncé, il est temps d'observer ce que font le patron et la bonne quand la patronne n'est pas là. Hispanophones auront compris que quand la très bigote et pas facile à vivre épouse du taxidermiste Pablo Morales va rejoindre ses momies d'amis, il s'agit moins de trousser la bonne que de lui demander de préparer un steak gros comme ça avec beaucoup, beaucoup de frites. Cet extrait d'une pépite de comédie macabre mexicaine dénichée par les films du Camélia, le squelette de Madame Morales, film signé en 1960 d'un cinéaste complètement ignoré en France, Rogelio A. González, alors qu'il a commis dans tous les genres possibles presque 70 films. Le squelette de Madame Morales pourra vous faire penser dans son surréalisme au film de Luis Buñuel, période mexicaine, et en particulier à Elle, dont il est en quelque sorte le double inversé. Eh bien, ce n'est pas étonnant, puisque ce squelette partage avec Elle non seulement le même acteur principal, le truculent Arturo de Córdoba, mais aussi le scénariste Luis Alcoriza. Quoi qu'il en soit, le film est un délice d'humour noir et d'immoralité féroce. Sophie-Catherine Gallet.
Et tout à fait, Antoine. C'est vrai que le film est particulièrement drôle et rondement mené par une grammaire cinématographique précise qui s'inscrit parfaitement dans le genre du film noir, tout en y ajoutant une note d'humour pour donner un film tout à la fois macabre et loufoque. Tourné en noir et blanc, les cadres sont construits par les zones d'ombre qui provoquent la montée de l'inquiétude, tandis que les acteurs, eux, dans un premier temps, jouent une partition axée sur le comique de situation, mis en place par des caractères exacerbés au sein d'un couple qui ne s'entend plus, un mari inconsistant Pablo, une femme amère obsédée par la religion, Gloria. Le tableau est planté, il sera question de la mésentente du couple. Les ombres sont ici mobilisées pour amplifier la dimension de film noir et de nombreux plans en plongée expriment une sensation d'enfermement des personnages dans le cadre par un regard surplombant dont ne sera révélée la teneur qu'à la toute fin du récit. L'alliance entre l'inquiétant et le comique s'illustre remarquablement bien dans un plan en particulier dont on entendait la version sonore en introduction. Le mari, filmé en plan rapproché, rit à gorge déployée et son visage de rigolard devient sardonique, grimaçant grâce aux ombres qui sculptent les plis de sa peau jusqu'à le rendre proprement effrayant, tel un petit diable. Le film prend une tournure encore plus inquiétante lorsque nous est présenté le loisir du mari, la taxidermie donc. Le macabre prend alors le dessus dans cet atelier empli d'animaux morts, d'instruments pour dépecer les cadavres, de squelettes à destination d'étudiants en médecine. Mais l'humour toujours se manifeste, il y a quelque chose de l'ordre de la gourmandise, d'une gourmandise étrange de la part de Pablo, qui se dévoile dans cet atelier de la mort, dans la manière dont le mari jouit de ses créations comme un enfant au milieu de ses jouets, dans cet endroit qui n'appartient qu'à lui, renforçant l'atmosphère en demi-teinte entre l'humour franc et le malaise. Atmosphère qui se prolonge aussi dans cette scène où le mari s'amuse avec ses amis à imaginer le crime parfait.
Boum, 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 el corazón suena como un tambor. Sale a la calle. Ve a un policía y se esconde. No duerme. Comienza a sentirse enfermo. Cree que todos los que le miran saben lo que usted ha cometido. Y la angustia crece cada vez más, día tras día, tras día. ¡Pero no sufra, hombre! ¡Esto es pura plática!
De la petite musique conçue pour susciter l'inquiétude au grand éclat de rire vorace, cet homme se transforme peu à peu en un ogre. Se faufile alors subrepticement une narration concentrée sur l'ironie acerbe, car Pablo, agacé par sa femme, qu'il accuse de coups qu'il n'a pas donnés. Alors on peut s'interroger sur cette mise en scène d'une femme menteuse et cherchant à piéger son mari quand une scène précédente nous montrait une tentative de viol conjugal. Mais bon, il décide tout bonnement de l'empoisonner, puis, comble du macabre, de la disséquer joyeusement et de ne garder que son squelette. Image de la femme, sa femme, donc devenue totalement inoffensive, à sa merci, et symbolique ultime de ce qui est recherché généralement par les hommes se rendant coupable de féminicide, la réduction de la femme à un objet, comme le montre bien l'une des scènes dans son atelier où Pablo parle au squelette de Gloria, comme si elle était encore vivante, avec délectation devant ce qu'il considère comme son chef-d'œuvre. L'atelier de taxidermie, cet environnement, se transforme alors, et le spectateur est amené à le voir différemment. Les visages figés, grimaçants des animaux se racontent soudain en corrélation avec le visage grimaçant de Pablo au début du film, introduisant comme une dialectique entre les vivants et les morts et poursuivant surtout son chemin d'un humour corrosif, mal élevé, désinguant tout sur son passage de la religion au comportement machiste. Il y a d'ailleurs dans ce film quelque chose d'assez étonnant sur cette représentation du féminicide. Si la critique de la religion est claire par la femme, le curé, les ouailles de la paroisse, tous plus bénis oui-oui les uns que les autres, on ne saura dire si le réalisateur souhaitait mettre en place cette critique du meurtre d'un conjoint, ayant choisi de représenter la femme encore vivante comme acariâtre et agaçante, ou si c'est notre regard contemporain qui nous permet de voir aujourd'hui ce qui était là, mais seulement en demi-teinte. Et c'est justement en fait ce qui rend cet objet si passionnant à décrypter, ce film entre deux eaux, entre l'humour et l'angoisse, entre la mise en exergue de l'inconscient sociétal d'un crime et par certaines touches, la tentative de justification de ce même crime par la représentation de Gloria. Enfin, autre coïncidence avec notre époque et non des moindres, Pablo sera finalement arrêté, jugé pour le meurtre de sa femme, dans une séquence de procès où l'humour est toujours victorieux, où les acteurs s'adonnent avec un plaisir évident à incarner des personnages archétypaux du mari bravache au curé engoncé dans sa bigoterie, et où, au terme d'une démonstration des plus absurdes, un squelette construit d'os différents devient la pièce à conviction qui permet d'exonérer Pablo. Pablo ne sera donc pas condamné et sera blanchi. C'est cependant sans compter sur le pouvoir de la fiction et ce drôle de regard surplombant le film qu'on notait dès le début, le hasard fera culminer le récit dans un sommet de drôlerie en prenant en charge ce que la justice des hommes n'aura pas su voir.
Merci Sophie-Catherine Gallet. Le squelette de Madame Morales de Rogelio A. González, inspiré, vous ne l'avez pas dit, et ça plaira à François Angelier, d'une nouvelle d'Arthur Machen, c'est en salle et en copie restaurée depuis mercredi. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Anthony Thomasson. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.